ne savez pas combien de personnes seraient là ce matin. C'est la première fois que je vis la Pentecôte ici, à l'église du Tabernacle. Et je me suis dit peut-être qu'avec ce grand congé, peu de personnes seraient là. Je suis réjoui de votre présence et réjoui que vous soyez là pour ce jour important. Une des fêtes importantes de notre calendrier chrétien, la Pentecôte, le don de l'Esprit. Nous voulons réfléchir ce matin ensemble ce que représente ce don de l'Esprit pour nous. Et je vous invite à écouter la parole de Dieu en lisant d'abord dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 22. Jean, chapitre 20, versets 19 à 22. Nous sommes le dimanche de Pâques et Jésus vient de ressusciter. Il est écrit ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Et je lis encore en Actes, chapitre 1, verset 8, une autre parole de Jésus ressuscité avant qu'il ne monte au ciel. Il parle à ses disciples et il leur dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Eh bien, Seigneur, que cette parole, nous la recevions comme ta parole ce matin, qu'elle nous mette en mouvement, qu'elle soit parole de vie pour nous. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons Pentecôte et nous sommes 50 jours après Pâques, après avoir célébré le ressuscité. Mais dans notre récit, nous sommes encore à Pâques. Nous sommes le soir de Pâques. Les disciples sont rassemblés dans une chambre dont les portes ont été verrouillées. Ils ont sans doute peur que les autorités juives ne viennent les arrêter, comme elles ont arrêté juste avant Jésus et l'ont crucifié. Alors les portes sont fermées. Et malgré cela, Jésus, tout à coup, leur apparaît. Il est là, miraculeusement. Un peu de la même manière que le même matin, le matin de Pâques, son corps avait traversé les linges funéraires, il s'était échappé, et ce soir-là, les portes fermées, il apparaît à ses disciples comme s'il se matérialisait tout à coup dans la pièce. C'est la première fois que Jésus voit ses disciples après sa résurrection. Il aurait pu aller à leur rencontre et leur faire des reproches. Tous ses disciples l'avaient abandonné au moment crucial, au moment de la croix. Mais au lieu de cela, il vient vers eux et il leur apporte une parole de paix. Il leur donne sa paix. Et la paix de Jésus, c'est la paix qui amène la paix du cœur. Cette parole est une parole de pardon. Une parole qui engage à la réconciliation avec Dieu. Et puis après les avoir salués, en amenant sa paix, Jésus leur montre qui il est réellement. Il leur prouve qu'il n'est pas un simple esprit. Il leur montre ses mains, il leur montre son côté, et il est le seul à pouvoir montrer que son côté a été transpercé. Et les disciples sont obligés de constater que ce ressuscité n'est pas n'importe quel ressuscité, n'est pas n'importe quel esprit, il est bien le Jésus vivant, celui qui a été crucifié 3 jours avant et qui est là dans son corps glorifié. Et c'est à partir de là que les disciples vont commencer à confesser Jésus publiquement, Jésus le Christ qui est revenu à la vie. À la présence de Jésus, les disciples sont dans la joie. Et il en va de même pour nous, quand nous entrons dans la présence de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être avec le ressuscité, celui qui donne la vie, celui qui est notre espérance. Jésus est apparu à ses disciples parce qu'il avait quelque chose à leur dire. Il a une mission à leur confier avant qu'il ne s'en aille auprès de son Père. Et ce qu'il leur dit, c'est ceci. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a donc un rapport très étroit entre la mission de Jésus qui a été envoyée dans ce monde et la mission que Jésus confie à ses disciples d'aller dans le monde. Cette mission aussi a un lien très étroit avec le pardon des péchés, comme l'évoque le verset 23 qui va suivre. Comme mon Père m'a envoyé, pourquoi Jésus a-t-il été envoyé dans ce monde? Pourquoi s'est-il incarné? Pourquoi a-t-il accepté de mourir sur une croix? Jésus est venu parce qu'il avait une mission à remplir, une mission de salut. Il est venu pour sauver le monde. Et lorsqu'il était en croix, il accomplit toutes les conditions objectives en vue de notre salut. Lorsqu'il était dans ce monde, Jésus a révélé le visage du Père. Il a enseigné la parole. Il a pardonné des pécheurs. Il a réhabilité des personnes. Il a guéri des malades. Il a chassé des démons. Il a amené le règne de Dieu. Il a démontré l'amour de Dieu. Il l'a démontré en parole et en acte. Il a été l'homme parfait. Il nous a montré ce qu'est l'homme qui vit pleinement pour Dieu. Bien sûr, son ministère était un ministère particulier. Nous ne pouvons pas être des petits Christs qui voulons sauver le monde par nos propres efforts. Ce que Christ a fait, lui seul pouvait le faire en étant à la croix. Lui seul pouvait accomplir les conditions objectives de notre salut. Et nous n'avons pas besoin de compléter son œuvre. Mais quand Jésus dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », nous avons à suivre ce même modèle de Jésus dans ce qu'il représente de l'annonce du salut et de la possibilité pour les gens d'être sauvés. Jésus demande, avant qu'il remonte au ciel, demande à ses disciples que nous poursuivions son œuvre. Que le salut soit répandu sur la surface de la terre. Il demande à ses disciples de refléter la gloire de Dieu. Il leur demande de proclamer ce message pour que des gens soient sauvés, pour que tous ceux qui placent leur confiance en Jésus n'aillent pas à la perdition, mais soient arrachés au pouvoir des ténèbres et transférés dans le royaume de lumière. En confiant cette mission, Jésus ne donne pas un plan stratégique. Il ne donne pas une mission en 10 points. Il ne leur dit pas précisément comment s'y prendre, mais il leur dit « Poursuivez cette mission ».
Jésus a montré comment il a accompli la mission de son Père. Il a été parfaitement obéissant. Il nous a montré le modèle de l'obéissance parfaite à son Père. Il est allé jusqu'au bout. Et au moment où il doutait, au moment où il agonisait dans le jardin de Gethsémané, il a encore prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus nous a montré ce que veut dire être totalement dépendant de Dieu. Et en cela, il nous montre un modèle. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vivez dans la même dépendance à Dieu. Allez en étant dépendant de Dieu. Faites la volonté de mon Père. Quand Jésus est monté au ciel, ce n'était pas pour abandonner sa mission ou pour dire que sa mission serait terminée, mais c'était pour que sa mission s'accomplisse différemment, non plus avec lui seul pouvant annoncer le message de Dieu, mais avec l'ensemble de ses témoins, de ses disciples, qui seraient là à pouvoir continuer cette proclamation de l'annonce de l'Évangile. Et puisque nous avons à continuer ce que Jésus a fait, nous n'avons pas à nous inventer une mission. Nous sommes dans la continuation de ce qui a été commencé. La mission de l'Église, il n'y en a qu'une. L'Église n'a pas à s'inventer une mission. L'Église a à faire briller le message de l'Évangile en paroles et en actes. Elle doit démontrer l'amour de Christ. Elle doit amener des gens à suivre Jésus. Elle doit former de nouvelles communautés de foi, implanter de nouvelles églises, étendre le royaume de Christ dans ce monde. Et cela jusqu'à ce que Christ revienne. Et cette tâche n'est possible que parce que nous aurons l'aide, parce que l'Église aura l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va être la force de Dieu et qui va changer ce monde. Et c'est pourquoi, juste après avoir leur confié cette mission, Jésus dit à ses disciples, et même souffle sur eux, en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Il y a un lien très clair qui est établi entre la mission que Jésus confie et la réception de l'Esprit. Nous ne pouvons pas mener la mission de Dieu sans être équipé et avoir reçu l'Esprit de Dieu. Ce qui est un peu plus difficile à comprendre dans ce texte, c'est de savoir ce que Jésus a réellement fait quand il a soufflé sur ses disciples. A-t-il effectivement donné l'Esprit à ce moment-là? Ou a-t-il plutôt effectué un geste annonciateur de l'Esprit qui allait être donné 50 jours plus tard? Les exégètes, les spécialistes de la Bible ont beaucoup réfléchi, ont débattu sur la compréhension qu'il fallait avoir de ce geste. Est-ce que c'est une première Pentecôte qui a lieu le jour de la résurrection, avant qu'il n'y en ait une deuxième 50 jours plus tard? Ce qu'il faut constater, c'est qu'en tout cas, après que Jésus ait soufflé son Esprit, on ne voit pas un grand changement dans la vie des disciples. On ne voit pas qu'ils seraient revêtus d'une puissance qui les pousserait à vouloir transformer le monde, à annoncer l'Évangile partout. Au contraire, dans les jours qui suivent, que vont-ils faire? Ils vont s'en retourner à leur métier de pêcheur, leur premier métier, comme si l'œuvre de Jésus se terminait là. Donc je pense que nous devons refuser de voir dans ce qui se passe le jour de la résurrection, une première Pentecôte. Une explication possible serait de penser que Jésus, à ce moment-là, alors qu'il vient de ressusciter, souffle sur ses disciples pour leur donner tout ce qui relève du salut qu'il vient d'accomplir. À savoir que désormais, ses disciples sont justifiés, sanctifiés, adoptés dans la famille de Dieu, qu'ils sont scellés du sceau de l'Esprit. Ses disciples ont été pendant 3 ans avec Jésus, mais ils n'ont pas pu être mis au bénéfice de la mort et de la résurrection du Christ, puisqu'elle n'avait pas encore eu lieu. Et juste avant, Jésus vient de leur apporter sa paix et le pardon des péchés. Du coup, en soufflant sur eux, nous pourrions comprendre qu'à ce moment-là, il fait d'eux réellement ses enfants, qu'il en fait les premiers croyants. Mais il devrait attendre quand même 50 jours encore pour que la Pentecôte se déploie pleinement, que l'Esprit soit déversé dans sa plénitude et qu'il soit dynamisé en vue de la mission qu'ils viennent de recevoir. Et à partir de cet événement fondateur, tous les croyants, tous les chrétiens recevraient l'Esprit dans sa plénitude au moment de leur nouvelle naissance. Une autre manière de comprendre ce qui s'est réellement passé, et beaucoup aujourd'hui vont plutôt dans cette direction, c'est que le geste de Jésus en soufflant et en disant « recevez l'Esprit » était un geste annonciateur de ce qui allait arriver. Tout le monde est d'accord pour dire que quand Jésus a soufflé, ce n'est pas l'air expulsé qui était réellement l'Esprit de Dieu. Donc il y avait forcément un symbole dans l'air qui a été soufflé pour dire que l'Esprit allait être donné. Et quand Jésus dit « recevez l'Esprit », cela ne veut pas dire que l'Esprit est donné immédiatement. Il peut très bien s'écouler un laps de temps de 50 jours avant que l'Esprit ne soit donné. Et par ailleurs, le verbe « recevoir »,« recevez l'Esprit » peut aussi se traduire en grec par « prenez » ou « accueillez l'Esprit ». Et du coup, on pourrait paraphraser cette parole de Jésus qui dit « recevez l'Esprit » de la manière suivante. On pourrait dire « après que Jésus leur ait donné leur ordre de mission, il souffle sur eux et il leur dit « accueillez l'Esprit qui va vous être donné, prenez-le, cet Esprit sera votre force, donnez-lui toute sa place dans votre vie. Préparez-vous à le recevoir ». Parce que je vais m'en aller auprès de mon Père. Je vais vous l'envoyer. Recevez-le, parce que cet Esprit va vous permettre d'accomplir la mission que je vous confie. Et vous allez ainsi pouvoir poursuivre cette histoire du salut en paroles, en actes. Vous allez annoncer la parole et l'Esprit se chargera de convaincre les gens de leur péché et du besoin de Dieu. Je vous ai présenté deux interprétations. Il est difficile d'être certain de la manière de comprendre précisément le sens de ce geste. Mais quelle que soit l'interprétation retenue, ce que j'ai envie de souligner maintenant, c'est qu'il y a un lien fort entre le fait que Jésus ait confié une mission et le fait que nous avons à recevoir l'Esprit de Dieu pour réaliser cette mission. Ce lien, nous le trouvons également dans le livre des Actes. Nous avons lu tout à l'heure Actes 1, verset 8, où il est dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Là encore, il y a un lien très fort entre « Le Saint-Esprit va venir et vous allez pouvoir être témoins, témoins du Christ, témoins de la grâce. » Le jour de Pentecôte, cet Esprit est descendu sur les disciples et les 120 qui étaient avec eux. Il est descendu sous la forme de flammèches de feu et les disciples ont été remplis du feu de Dieu. Et depuis là, chaque disciple, chaque croyant a reçu l'Esprit, un esprit de puissance. Chaque croyant a reçu le feu de Dieu. Et c'est avec ce feu de Dieu que nous sommes amenés à parler du Christ autour de nous, à répandre la bonne nouvelle, à être témoins. À partir de la Pentecôte, l'Évangile s'est propagé comme une traînée de poudre. Les disciples, revêtus de la puissance de l'Esprit, ont commencé à proclamer le message. Ils l'ont vécu. Et même si leur vie n'était pas parfaite, leur vie parlait de l'amour de Dieu. Leur manière de vivre leur foi témoignait qu'ils avaient été transformés par l'amour de Dieu. Ils étaient dans la joie. Ils manifestaient la paix. Ils démontraient de la patience, de la bonté, de la bienveillance. Ils menaient une vie de pureté, de fidélité, de douceur. Ils savaient être maîtres d'eux-mêmes. Ils témoignaient que l'Esprit était à l'œuvre dans leur vie. Et les gens ont été touchés, touchés souvent par le témoignage très simple de leur vie. L'Esprit de Dieu a poussé certains à se repentir, à s'engager à la suite de Jésus, à être prêts même à aller jusqu'à mourir pour ce Christ avec lequel ils s'engageaient. Et plusieurs vont mourir en martyr. Les témoins du Christ ne se sont pas tus. Ils ont parlé. Ils ont parlé de ce Dieu qui pardonne ou de ce Dieu qui retient les péchés si la personne refuse de faire confiance à Jésus. Jésus a dit « Je vous envoie et vous serez mes témoins ». En lisant le livre des Actes, nous sommes éblouis de la manière dont l'Évangile se répand. Très rapidement, l'Évangile s'est répandu dans tout l'Empire romain. Il s'est répandu grâce à des gens que nous connaissons, grâce aux 12 apôtres, grâce à Paul et à ses associés, mais grâce aussi à des personnes ordinaires, à des gens dont on ne connaît pas le nom, mais des témoins de la grâce de Dieu. Dieu a inclus dans son projet, dans sa mission, des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. On sait, par exemple, que des femmes parlaient de leur foi en allant laver leur linge au lavoir. On sait qu'il y avait des discussions doctrinales sur la place du marché. La foi n'était pas tue, elle n'était pas confinée à la sphère privée. On parlait de ce qu'on avait vécu. Un des grands spécialistes de l'histoire de la mission, c'est Jacques Blandenier, qui a écrit d'ailleurs 2 tomes sur l'histoire des missions, en reprenant d'ailleurs le travail qui avait été fait par Jacques Blocher, le père de notre frère Henri Blocher. Et Jacques Blandenier parle de la mission qui s'étend dans le monde entier rapidement de la manière suivante. Il évoque le fait que dès les tout premiers temps, le message de l'Évangile ne s'est pas répandu seulement dans l'Empire romain, comme on le pense souvent, sur la base du témoignage que nous avons dans le livre des Actes, mais qu'il est parti dans les 4 points cardinaux. L'Évangile s'est implanté en Afrique, et pas seulement en Afrique du Nord, mais aussi, dès le IVe siècle, en Nubie, en Éthiopie, au Soudan, et pas grâce à des missionnaires européens, mais grâce à des missionnaires égyptiens et des missionnaires orientaux. En Asie, l'Évangile s'est répandu d'abord en Syrie, puis en Perse, et puis dans le royaume d'Arménie avant l'an 300. On sait qu'il est allé jusqu'aux Indes, sans doute déjà au IIe siècle après Jésus-Christ. Des missionnaires syriens ont atteint la Chine et traduit la Bible en langue chinoise au VIIe siècle après Jésus-Christ. Au début du deuxième millénaire, vers l'an 1000, de nombreuses églises étaient déjà établies chez les peuples mongols et dans toute l'Asie centrale. Il y a eu des entreprises missionnaires en Afrique, en Asie, et cela a été le fait d'Africains et d'Asiatiques. Aujourd'hui encore, on peut trouver dans ces pays des églises qui sont souvent très minoritaires, mais qui se sont développées en dehors de l'influence occidentale et qui sont bien antérieures au phénomène d'islamisation qui a eu lieu par la suite. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que les Européens sont sortis de leur Europe pour aller annoncer l'Évangile sur d'autres continents. L'Évangile s'est répandu aussi très rapidement en Europe, malgré le fait qu'il y avait une persécution de la part du pouvoir impérial. Les églises sont devenues tellement nombreuses que l'Empire romain s'est considéré comme un empire chrétien à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Et malheureusement, de là en est résulté une foi souvent très superficielle, un christianisme de façade. Un christianisme qui est devenu majoritaire plus par décision politique que par entreprise missionnaire. Et de par cette superficialité du christianisme, lorsqu'il y a eu des invasions barbares au 5e siècle, au 6e siècle, le christianisme a failli disparaître d'Europe. Il a fallu que des missionnaires viennent d'Irlande pour de nouveau réévangéliser l'Europe, où la foi n'était quasiment plus là. Et il faudra attendre jusque vers l'an 1000 et même au-delà pour que tous les pays européens soient à nouveau atteints par l'Évangile. Et c'est une situation qui nous parle, puisque 1000 ans plus tard, aujourd'hui, nous avons besoin de christianiser à nouveau l'Europe. Une Europe qui est le continent où l'Évangile est sans doute le moins vécu, où nous avons le moins d'églises fidèles à l'Évangile. L'Europe est à nouveau un désert spirituel. Aujourd'hui, la mission a fortement évolué. Nous envoyons des missionnaires, mais nous recevons aussi des missionnaires. En France, nous avons des missionnaires qui sont venus des États-Unis, nombreux, après la guerre. Mais nous en avons aujourd'hui qui viennent du Brésil. Nous avons, dans l'association baptiste, deux pasteurs brésiliens qui exercent en France. Nous avons des missionnaires qui viennent d'Afrique, d'Asie et même de Suisse. Alors, comment allons-nous réévangéliser la France? Le CNEF a compté qu'il faudrait 2400 nouvelles églises pour avoir une église fidèle à l'Évangile pour 10 000 habitants. Et ce ne sont pas les instituts bibliques ou les facultés de théologie avec leurs moyens actuels et leurs effectifs actuels qui pourront remplir cette mission. La mission n'est pas l'œuvre de quelques-uns. Elle n'est pas l'œuvre de spécialistes. Nous sommes tous témoins et nous sommes tous envoyés dans la mission. Et nous ne devons pas penser uniquement à la mission outre-mer comme nous l'avons fait autrefois. La mission aujourd'hui, c'est de partout vers partout. Et la mission, elle commence d'abord aux proches, au plus proche de nous, ici, dans notre quartier, dans notre arrondissement, dans notre ville de Paris, une ville qui est un vrai désert spirituel. La ville de Paris, intramuros, est un des endroits en France où nous avons le moins de chrétiens par habitant de toute la France. La mission nous a été donnée par Jésus sans qu'il nous dise précisément comment faire. Il y a toutes sortes de moyens d'entrer dans la mission de Dieu. Nous devons nous adapter au contexte, aux personnes auxquelles nous adressons. La mission va prendre des formes différentes, mais il n'y a qu'une seule mission. La mission n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui décide de la mission. C'est Dieu qui m'engage dans sa mission. Il m'accorde un privilège, c'est celui de participer à la mission de ce plan de sauvetage qu'il a mis en route dès la chute dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, Dieu veut me faire participer à ce plan de sauvetage. Comment vivre la mission? Forcément, nous ne pouvons pas adopter les méthodes qui avaient cours il y a 50 ans. Le monde a changé. Nous devons nous adapter à notre contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, la manière la plus simple d'être témoin de Christ, c'est dans les relations personnelles. C'est d'avoir des amitiés, d'entreprendre des activités avec des gens qui nous sont proches, d'aller au cinéma avec eux, au concert, peut-être même de faire des vacances avec eux, de les inviter pour des repas, et de vivre avec eux dans une forme de transparence, d'expliquer, de montrer qui est Dieu dans notre vie, ce qu'il change, pourquoi nous faisons tel ou tel choix. et de voir Dieu à l'œuvre va interpeller nos amis, va les questionner sur leur propre façon de vivre. Alors peut-être pourra-t-on lire avec eux la Bible. On va les encourager à lire la Bible, mais pourquoi pas ne pas lire la Bible avec eux, de prendre du temps, chaque semaine, chaque deux semaines, de lire un passage, de le commenter, d'en discuter. La jeunesse aujourd'hui fait facilement cela en allant au restaurant, en ouvrant la Bible, en lisant un texte. Ça se fait dans le contact personnel. Ça se fait aussi dans la manière de montrer l'amour de Christ à l'œuvre. On pourra déjà soigner le contact que l'on a avec notre voisin. On pourra peut-être aider une voisine qui est malade à nettoyer son appartement, à faire ses courses. On pourra échanger sur la manière de faire du bricolage avec le voisin qui a une propriété à côté de la nôtre. Peut-être pourra-t-on se lancer dans des activités associatives, faire du bien dans notre quartier, ouvrir une ludothèque, vendre des articles de seconde main, et par là, chercher toujours à être témoin de la grâce du Christ. Quand on cherche à contextualiser l'Évangile, on peut aussi penser à d'autres formes. On voit tous ces mouvements migratoires qui poussent des gens venus d'ailleurs, de pays dans lesquels nous n'avons pas accès parce que c'est des pays fermés à l'Évangile, être là à notre porte. Comment être témoin du Christ en offrant peut-être des cours de langue à des réfugiés, en aidant des immigrants à s'intégrer dans notre culture, en invitant notre voisin de palier à un repas. L'Église doit réfléchir à la manière de prolonger la mission du Christ. Pourquoi ne pas implanter de nouvelles églises alors qu'il en manque tant? Chercher à grandir, certes, mais en même temps implanter de nouvelles églises autour de nous, puisque ça semble être le moyen qui permet la diffusion la plus rapide de l'Évangile. Et ce matin, en entendant l'appel de Jésus, qui nous envoie en mission et qui nous appelle à être témoins, nous sommes peut-être appelés à prier et à dire « Seigneur, je vais être obéissant à cet appel. Tu étais obéissant à l'appel de ton Père, tu es venu parmi nous, je veux te suivre, aide-moi à être obéissant. Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Équipe-moi, rends-moi fort. Aide-moi à propager la joie du salut autour de moi. » Le Seigneur, comme il le dit ce week-end aux jeunes avec le thème qui est le leur, « Va avec la force que tu as », nous dit aussi « Va avec la force que tu as ». Va en étant rempli de l'Esprit, qui est un esprit de force et de puissance. Amen. J'aimerais prier encore avec vous. Seigneur, que ta parole, qui est parole de vie, ne nous laisse pas, maintenant ne reparte pas à toi sans effet. Tu nous as fait la grâce d'être justifiés, pardonnés, sanctifiés, adoptés dans ta famille, scellés du sceau de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans cette mission d'être témoins de cette grâce, de pouvoir parler librement autour de nous de ce que tu as fait pour nous, et d'amener des gens dans ta famille, de les amener à être réconciliés avec toi, de pouvoir bénéficier de la vie éternelle, celle que tu accordes à tous ceux qui placent leur confiance en toi. Que ce jour soit un jour de joie, parce que tu nous fais participants de ta mission. Au nom de Jésus. Amen.